Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque de m'avoir donné la chance et l'opportunité de faire cette communication, qui s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans le prolongement des deux communications précédentes, puisqu'il a été montré, au moins dans la perspective hobbesienne, que toute démocratie était aussi représentative. Il a été démontré également qu'au plus haut degré de notre ordre juridique, c'est-à-dire au niveau constitutionnel et de la déclaration de 1789, il était prévu que le citoyen puisse énoncer ou participer à l'énonciation de la volonté générale. Et moi, mon propos va être d'essayer de rentrer dans la soute des procédures qui peuvent être mises en place pour faire participer le citoyen à l'expression de la volonté générale. Et mon point d'entrée, mon point d'étude, ça va être un ensemble de projets constitutionnels qui ont été élaborés entre 1792 et 1793, grosso modo, entre l'élection de la Convention nationale, et donc sa première réunion en septembre 1792, et l'élaboration définitive de la Constitution de l'an 1 en juin 1793. Et ce que j'aimerais développer, c'est le fait que l'ensemble de ces projets s'inscrivent dans un paradigme institutionnel et juridique commun, ou une philosophie politique commune, pourrait-on dire, qui vise précisément à rendre compatibles représentation et démocratie. Donc c'est ça le cadre juridique, théorique, politique, dans lequel s'inscrivent une très grande majorité de ces projets constitutionnels. Et dans la mesure où ce sont des projets constitutionnels, ils s'affrontent directement à la question des procédures à mettre en place pour concilier représentation et démocratie. Donc ce ne sont pas des discours théoriques sur est-ce que les deux sont compatibles, par principe, comment les rendre compatibles, mais ce sont des textes juridiques qui vont chercher des procédures permettant de faire participer les citoyens à telle ou telle compétence de l'État. Et donc, je procéderai en trois temps. Dans un premier temps, c'est ma formation d'historien qui parle. Dans un premier temps, je dirai quelques mots sur la source, donc ces projets constitutionnels de 1793 comme source de l'histoire politique et constitutionnelle. Dans un deuxième temps, j'essaierai de présenter le paradigme commun dans lequel ils s'inscrivent. Donc, on trouve un très grand nombre de régularités d'un projet à l'autre. C'est très frappant, je trouve, en les lisant. Et ce paradigme commun, c'est la souveraineté du peuple. Le peuple est souverain. La représentation, toute république doit être représentative. Et dans le même temps, le fait que les citoyens n'épuisent pas leurs compétences politiques dans l'élection. Et ça, c'est trois aspects qu'on retrouve dans la très grande majorité de ces projets. Et enfin, dans un dernier temps, j'essaierai de décrire quelques-unes des articulations qui sont trouvées entre démocratie et représentation dans ces projets constitutionnels. Donc, premier point sur ces projets constitutionnels, donc vous l'aurez compris, entre septembre 1792 et juin 1793. Première année d'exercice de la Convention. Je ne rappelle pas que la Convention est élue à la suite de la prise des Tuileries le 10 août 1792, qu'elle commence à se réunir le 21 septembre 1792 et qu'elle doit d'emblée, elle est élue pour doter la France de la première constitution républicaine, de sa première constitution républicaine. Et donc se pose d'emblée une question de méthode, comment procéder pour écrire cette constitution républicaine? Et le choix que fait la Convention est double. D'une part, elle va nommer un comité composé de 9 membres, comité de constitution qui va être chargé d'élaborer un projet qui ensuite sera soumis à l'Assemblée plénière, d'une part, et d'autre part, elle va, sur proposition de Barrère et par un décret du 19 octobre 1792, énoncer que, je cite ce décret, la Convention nationale invite tous les amis de la liberté et de l'égalité à lui présenter, en quelque langue que ce soit, les plans, les vues et les moyens qu'ils croiront propres à donner une bonne constitution à la République française. Donc, dans un acte assez contemporain, pourrait-on dire, elle fait un appel à contribution auprès de l'ensemble des citoyens, non seulement de la Nouvelle République, mais également, vous l'aurez compris, plus largement. À la suite de ça, comme ça a été indiqué à l'instant par Denis Barranger, le comité de constitution, dominé par la figure de Condorcet, soumet à la Convention un projet de constitution le 15 février 1793. Le grand historien de la Révolution française Albert Mathiez indique, l'accueil fut glacial. Donc c'est un projet qui est très mal accueilli par la Convention. Et donc la Convention décide de recommencer tout ce travail. Et dès le lendemain, le 16 février 1793, elle remet en place un nouveau processus qui comprend les deux mêmes branches. D'une part, elle décrète que tous les membres de la Convention qui auront des projets de constitution à proposer sont autorisés à les faire imprimer aux frais de la République. Et d'autre part, elle nomme une commission de 6 membres qui est chargée de faire la synthèse de ces projets et de présenter lui-même un nouveau projet de constitution. Le débat finalement est relativement haché et décousu, miné par les luttes politiques entre Girondins et Montagnards. Et finalement, le 30 mai puis le 2 juin 1793, les Girondins sont arrêtés. Et le comité de salut public reprend la charge de l'élaboration de la Constitution. Et donc c'est le comité de salut public qui, au pas de charge, va élaborer la Constitution de l'an 1. Et finalement, cette Constitution est élaborée en un temps très court, donc entre le début du mois de juin et le 24 juin, date à laquelle la Convention nationale adopte ce projet de Constitution. Petit rappel pour indiquer que si les archives de ces deux comités de Constitution et commission des six ont été perdues, en revanche, ont été conservées plusieurs dizaines de projets constitutionnels élaborés dans ce cadre et adressés à la Convention dans ce contexte. Les sources de l'époque, et notamment une intervention en séance de l'an juinet, nous indiquent que 300 projets auraient été reçus, que ce soit dans le cadre du premier décret ou du second décret. On en a conservé une centaine. Une centaine de projets qui sont conservés dans 4 fonds d'archives et dont l'essentiel est publié en annexe de 4 séances dans les archives parlementaires. Donc c'est sur cette centaine de projets, environ les 9 dixièmes proviennent de conventionnels. Donc il y a à peu près un dixième, une dizaine de projets de citoyens, de sociétés populaires, de communes, et puis environ 90 projets de conventionnels. Donc on trouve dans ces textes constitutionnels une source, au sens historique du terme, incomparable sur ce républicanisme des origines, pour plagier un auteur dans la salle, républicanisme des origines qui va tracer les contours de la pensée de ces conventionnels et dont j'essaierai de montrer qu'elle comporte, cette pensée, des axes structurants très très forts et communs à l'ensemble des rédacteurs de projets. Un petit mot également sur le contenu de ces projets qui se séparent en plusieurs genres au sens littéraire du terme. D'une part, il y a de véritables projets de constitution rédigés sous forme d'articles qui vont de l'article 1er à l'article 150 et donc qui entendent de proposer une constitution clé en main pour la jeune République française. Il y a d'autres textes qui sont plutôt rédigés sous une forme littéraire et qui vont énoncer une ambition générale ou une vision générale de ce que doivent être les institutions de la République française. Et enfin, il y a une troisième série de projets qui sont concentrés sur des questions très particulières. Par exemple, il y a un projet sur l'abolition de la peine de mort, donc qui argumente uniquement sur cette thématique-ci. Un projet qui concerne la répartition au hasard des députés dans l'hémicycle, donc voilà pour le coup très circonstancié, même pas sûr que ce soit au niveau constitutionnel, on est plutôt au niveau des règles d'organisation de l'Assemblée. Ou encore un projet de Delacroix pour créer un amphithéâtre dans chaque canton, donc on voit qu'on est sur tout type de projets et de questions. C'est un bon point d'observation, cet ensemble de projets constitutionnels, pour déterminer ce qu'on appelait à l'époque une constitution. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une constitution pour les conventionnels en 1792-1793? Il y a plusieurs projets qui abordent cette question de manière théorique, mais il est aussi intéressant de voir, au regard du contenu de ce que les auteurs mettent dans leurs projets constitutionnels, ce qu'ils entendent par constitution. Le député Audouin pose une question dans sa contribution et pose même 18 questions dans sa contribution auxquelles une constitution devrait répondre. Donc pour lui, le champ d'une constitution, c'est la réponse à ces 18 questions qu'il pose. Or, presque la moitié de ces questions, 8 questions, portent sur la souveraineté du peuple et les manières pour ce dernier de l'exercer ou de la déléguer. Donc, par exemple, le mode de scrutin, le régime électoral, la sanction des lois par le peuple, les modalités de révision constitutionnelle et comment est-ce qu'elles associent le peuple. Donc la souveraineté qui est vue vraiment comme un élément essentiel. Quatre sur le pouvoir exécutif, deux sur la justice et quatre sur les politiques publiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les politiques publiques, la fiscalité, l'armée, les relations internationales notamment. Donnou, dans sa contribution, qui est peut-être celle qui théorise le plus la notion de constitution, indique que, je le cite, la Constitution serait le code qui établit et distribue les pouvoirs, qui fixe leur caractère, leurs compétences et leurs limites. L'élection, le nombre, la destitution, le renouvellement des hommes publics par lesquels les pouvoirs sont exercés. Et dès lors, la question fondamentale, je recommence à le citer, c'est déterminer la puissance dont le souverain se réserve l'exercice immédiat et habituel et distribuer entre ses délégués la puissance qui ne sera point exercée par lui. Et logiquement, il divise sa constitution en deux titres. Les formes par lesquelles le souverain, c'est-à-dire le peuple, j'y reviendrai dans un instant, exerce la souveraineté, d'une part, et d'autre part, les compétences de ses délégués ou de ses représentants, et quelles sont ses compétences et comment est-ce que ses représentants interagissent. J'en viens à mon deuxième temps, qui donc essaye de tracer quels sont les contours de ce paradigme commun qui se détache, se repère à la lecture de ces projets de la première année de la Convention. Lucien Jaume notait que le projet de constitution de Condorcet était, je le cite, la première tentative pour penser et surmonter l'aporie rencontrée depuis 1789 entre représentation et exercice immédiat de la souveraineté. C'est également, je crois, le sens du propos de Denis Barranger à l'instant. Il me semble, à la lecture de cette centaine de projets constitutionnels sur plusieurs centaines de pages, qu'en fait, cette tentative de réconciliation est l'ambition commune de l'ensemble de ces projets constitutionnels. Et Condorcet s'inscrit ainsi pleinement, n'est que le meilleur représentant, en quelque sorte, de ce paradigme institutionnel ou constitutionnel. Donc, si on veut identifier les points communs de ces projets constitutionnels de 1792-1793, on peut retenir plusieurs aspects ou plusieurs critères. Premièrement, tous les projets s'accordent sur le fait que la souveraineté réside dans le peuple. Et à ce titre, il n'y a pas de débat particulier ou de différence qui soit faite entre le peuple et la nation. L'ensemble des projets parle du peuple. Lorsqu'il parle de la nation, il identifie en fait au peuple. Mais une fois que le souverain est identifié et placé dans le peuple, encore faut-il précisément déterminer en quoi il consiste. Il y a deux conceptions du peuple qui coexistent. D'une part, le peuple comme étant l'ensemble des citoyens, et d'autre part, le peuple comme étant le peuple des sections parisiennes. Et on voit là en filigrane réapparaître l'opposition telle qu'on l'a, en tout cas en mémoire de manière spontanée, entre Girondins et Montagnards. Toutefois, à la lecture des projets constitutionnels, dans l'immense majorité des cas, c'est bien du peuple comme universalité des citoyens dont il est question en tant que souverain. Et si certains défendent le pouvoir agissant des sections parisiennes, c'est uniquement en cas d'entorse à la souveraineté du peuple. Donc si un jour les représentants usurpaient la souveraineté du peuple en dépassant le champ des délégations qui est le leur, là, le peuple en tant que section parisienne ou les sections parisiennes en tant que représentantes du peuple seraient légitimes à intervenir, mais uniquement dans ce cas-là. Donc le peuple comme universalité des citoyens est une définition couramment acceptée. Premier point donc sur la souveraineté du peuple. Deuxième point, tous les auteurs s'accordent également sur l'idée qu'un peuple de 26 millions d'habitants ne peut pas se gouverner directement. Donc il y a un postulat commun qui est que toute république, dans les conditions de l'époque, est nécessairement représentative. Et d'ailleurs, ajoutent certains, et ça fera écho à une des interventions précédentes, aucune société ne se gouverne elle-même sans institution et sans gouvernant. Tout simplement parce que, note le député Montgilbert, quand un conflit apparaît, il faut bien une instance sociale pour la résoudre, et donc on fait bien toujours appel à une forme de représentation, notant que même les peuples de l'Antiquité, et la démocratie athénienne en particulier, faisaient appel à des représentants. On note également certaines critiques justement des démocraties antiques, au sens où les peuples de l'Antiquité n'avaient le loisir de participer à la chose publique que parce qu'ils pratiquaient l'esclavage. Et donc c'est également une critique de ces régimes supposés, par certains en tout cas, sans représentation. Et c'est d'ailleurs un axe fréquent de critique du projet du comité de constitution, c'est-à-dire du projet de Condorcet, notamment par les montagnards, qui jugent que ce projet impliquait une trop forte implication des citoyens dans la vie politique quotidienne. Un député montagnard, Calès, note 7 à 8 assemblées primaires par an, de 2 à 4 jours chacune, et qui labourera les champs, qui nourrira le peuple loin de sa maison. Donc l'idée qu'on ne peut pas non plus exiger du peuple une participation, ou des citoyens, une participation quotidienne à la vie de la cité, contrairement aux républiques antiques. Le point important donc à noter, c'est que la République, dans ses mémoires constitutionnelles, ne peut être qu'une République représentative. Je cite Saint-Just dans son projet constitutionnel, la France est une République. Sa constitution est représentative, le peuple français est représenté par une assemblée nationale qui fait les lois. Donc on a là également, côté montagnard, ce principe de représentativité. Petite indication complémentaire que je n'ai pas donnée tout à l'heure, la distribution de ces projets est assez fidèle à la distribution des députés au sein de la Convention. C'est-à-dire qu'on a des projets girondins, on a des projets montagnards, on a des projets de députés plutôt modérés, en représentation à peu près équivalente. Et par ailleurs, les députés dont on a conservé les projets ne sont pas forcément les figures de proue de la Convention. Donc c'est plutôt l'opinion de députés de base, entre guillemets, de la Convention dont on a conservé les projets. Donc premièrement, souveraineté du peuple. Deuxièmement, nécessité, même caractère impératif de la représentation. Troisièmement, l'élection comme procédure centrale commune à l'ensemble de ces projets. Ces projets et les députés estiment que tous les agents publics, ou en tout cas la plus grande partie des agents publics, ou des fonctionnaires, des mandataires, pour parler dans le langage de l'époque, doivent être issus de l'élection. Donc c'est bien sûr le cas des législateurs, des membres de l'Assemblée. C'est également le cas des postes de commandement dans la garde républicaine. C'est également le cas des instituteurs. Le député Barraillon est peut-être celui qui va le plus loin. Il propose l'élection des percepteurs des impôts, des directeurs des postes, des instituteurs, des archivistes, des médecins et même des accoucheuses. Donc vous voyez qu'on a un principe de légitimation de l'élection, ou plutôt l'élection comme principe de légitimation qui est poussé très très loin. Et qui fait que toute personne qui exerce des fonctions publiques de quelque nature qu'elle soit doit être issue de l'élection. Je ne développe pas sur l'exclusion du tirage au sort qui a été bien notée par Bernard Manin dans son livre sur les principes du gouvernement représentatif. Et effectivement, dans ses projets également, le tirage au sort est marginalisé. Donc il n'y a pas de recours au tirage au sort, si ce n'est selon le mode qui était pratiqué par les républiques italiennes en combinaison avec l'élection pour donner des gages d'impartialité aux personnes qui ont été élues. Mais en tout cas, aucun gouvernant, aucun fonctionnaire, aucun mandataire du peuple n'est jamais tiré au sort purement et simplement. Quatrième élément, c'est que la représentation élective, donc représentation qui est destinée à être pourvue par l'élection, n'a pas vocation à être limitée a priori. Et donc ces projets constitutionnels, ces conventionnels, refusent toute espèce de mandat au sens de mandat impératif. Les représentants sont élus et doivent être libres de délibérer, de convaincre, de se laisser convaincre également. Au plus, certains acceptent que les députés soient porteurs des vœux de leurs électeurs, qui les ont élus, mais dont ils pourront se défaire après les avoir présentés à la Convention nationale ou à l'Assemblée qui est destinée à lui succéder. Et donc, au final, vous voyez qu'on a là un ensemble de conceptions, partant de la souveraineté du peuple, passant par la représentation, par l'omniprésence de l'élection, également par le caractère délibérant, qu'on a tendance à regrouper un peu facilement aujourd'hui sous l'intitulé de gouvernement représentatif. Au final, on est dans une forme de gouvernement représentatif. Et d'ailleurs, certains se contentent de ce gouvernement qui, dans les termes de l'époque, est dénommé gouvernement purement représentatif. Donc ça, ces différents éléments de ce paradigme institutionnel, c'est ce qui forme le gouvernement purement représentatif dans la théorie de l'époque, et qui est notamment, dont un des meilleurs représentants est Boissy d'Anglas, qui énonce dans son projet, tous les pouvoirs résident essentiellement dans le peuple, mais le peuple déclare qu'il ne veut les exercer que par délégation. Donc tous les pouvoirs résident dans le peuple, mais le peuple, finalement, n'en exerce aucun. Et en ceci, Boissy d'Anglas est minoritaire, et même très minoritaire. presque aucun autre des conventionnels ne juge qu'il faut doter la France d'un gouvernement purement représentatif. Tous ou presque, imaginent des modalités pour que le peuple exerce directement une partie de la souveraineté. C'est ça qui fait le dernier point commun de ces projets constitutionnels. On peut citer Robespierre qui prône un gouvernement organisé, je cite, d'une manière également éloignée des tempêtes de la démocratie absolue et de la perfide tranquillité du despotisme représentatif. Donc l'idée qu'un gouvernement purement représentatif, pour beaucoup des auteurs, serait un gouvernement en fait despotique parce que le peuple, et c'est là les souvenirs de Jean-Jacques Rousseau, ne serait libre qu'au moment des élections et dès qu'il a élu ses représentants, il ne serait plus libre. Et donc tout le défi des rédacteurs de projets constitutionnels, c'est de répondre à la question suivante, comment conserver au peuple sa souveraineté dans un gouvernement qui ne peut être que représentatif? C'est ça la question à laquelle ils s'affrontent. Comment conserver au peuple sa souveraineté dans un gouvernement qui ne peut être, par la force des choses, que représentatif? Et donc se pose la question de la conciliation entre gouvernement représentatif, caractérisé par les différents éléments que je citais, d'une part, et forme d'exercice par le peuple de sa souveraineté, c'est-à-dire quelles fonctions doivent être confiées au peuple, quelles fonctions de l'État, quelles fonctions constitutionnelles doivent être confiées au peuple ou aux citoyens. Alors une première modalité de cette conciliation, que je ne développerai pas, tienne à des paramètres électoraux. Donc paramètres électoraux qui jouent notamment sur la durée des mandats. Il faut que les mandats soient courts pour que fréquemment les représentants soient renouvelés. Il faut que les fonctions exécutives soient collégiales, qui est une autre modalité. Il faut interdire la rééligibilité des élus. Donc on a là des paramètres plutôt électoraux ou institutionnels. Mais ces différentes procédures ne sont pas vues comme suffisantes. Le cœur de la réflexion porte sur les départages entre les actes que le peuple doit continuer à effectuer lui-même ou doit être autorisé à effectuer lui-même et ceux pour lesquels il doit faire appel à des représentants. Et le conventionnel Barraillon forme un néologisme qui est celui d'actes syntocratiques. Les actes syntocratiques, sous sa plume, ce sont les actes qui sont accomplis par le peuple dans son ensemble au sein des assemblées primaires. Donc, pour résumer, la question qui se pose à ces auteurs de projets constitutionnels, c'est quels sont les actes qui doivent être délégués et quels sont les actes que le peuple doit assumer lui-même. Et on verra tout à l'heure selon quelle modalité. Et donc, c'est là qu'on entre véritablement dans la soute et dans la procédure. Quels actes, comment, par quels moyens est-ce que le peuple peut devenir un acteur institutionnel? En dehors des élections. Et donc, il faut définir les pouvoirs du peuple. Et c'est ça que se proposent les conventionnels. Et pour ça, ils identifient trois grands types, on peut en tout cas les regrouper en trois grands types, de pouvoirs que le peuple pourrait exercer. Et ça sera le troisième temps de cette présentation. Le premier type de pouvoir, c'est le pouvoir de faire la loi ou de s'y opposer. Donc, pouvoir de faire la loi ou de s'y opposer. Je viendrai ensuite sur le pouvoir de contrôler ses représentants, qui est un deuxième type de compétence que le peuple pourrait exercer, mais ce n'est pas le contrôle au sens du contrôle que décrit Bernard Manin dans les principes du gouvernement représentatif par la publicité. C'est des procédures qui doivent permettre de contrôler. Et enfin, celui de prendre des initiatives, qui est le troisième aspect qui est mis en valeur. Donc d'abord, la censure et la sanction des lois, puisque ce sont les deux termes, les deux procédures qui sont proposées. Comme l'a indiqué Denis Barranger, du coup j'y reviendrai pas, le projet Girondin consacre un titre à la censure du peuple sur les actes de la représentation nationale. Et donc tout citoyen ou tout groupe de citoyens au sein de son assemblée primaire pourrait s'opposer, demander l'abrogation d'une loi qui a été votée par les représentants. Et ensuite, par un mécanisme de tache d'huile, d'abord l'assemblée auquel appartiennent les citoyens, puis les assemblées de la commune, puis les assemblées du département, sous réserve qu'il y ait à chaque niveau un accord pour remettre en cause la loi. Si jamais le résultat est positif, le corps législatif est saisi, et soit il valide la proposition d'abrogation, soit il est dissous de plein droit, et de nouvelles élections ont lieu. Donc c'est aussi un mécanisme pour résorber une différence qui apparaîtrait entre la volonté du corps législatif et la volonté telle qu'elle s'exprime dans les assemblées. Deuxième procédé qui est proposé, c'est le procédé qui finalement se retrouvera dans la Constitution de l'an 1, la Constitution montagnarde, qui est une procédure de sanction des lois. Donc là, il ne s'agit pas de remettre en cause des lois déjà en vigueur, déjà adoptées. Il s'agit de permettre, ou plutôt de conférer aux citoyens, aux assemblées primaires, la possibilité d'approuver les lois, de parfaire en quelque sorte la loi, pouvoir qui auparavant était accordé au roi. Et pour pas paralyser toute forme d'action publique ou de législation, cette sanction est réputée acquise si jamais les assemblées primaires ne s'opposent pas dans le délai qui leur est imparti. Et on voit que ces deux modalités, sanction des lois ou censure des lois, ont pour point commun de permettre au peuple de se prononcer sur les lois adoptées par leurs représentants, soit qu'ils puissent les remettre en cause à tout moment. C'est la censure, soit qu'ils puissent s'opposer à leur entrée en vigueur même, c'est la sanction des lois. Et on trouve dans les projets constitutionnels un grand nombre d'articles, de dispositions qui prennent parti soit pour la censure, soit pour la sanction. Dans une majorité de projets constitutionnels, on retrouve l'une ou l'autre des deux modalités. Et donc le moment Condorcet est un moment convention, en quelque sorte, ou député à la Convention, au sens où tous s'inscrivent dans un paradigme qui est relativement similaire. Pourquoi est-ce que les conventionnels proposent ce type de disposition? Pour éviter l'insurrection. Éviter l'insurrection qui est vue comme la modalité par défaut, qui était vue comme la modalité par défaut pour le peuple de s'opposer à ses représentants. Si les représentants usurpent la souveraineté, s'ils dépassent leurs compétences, le peuple n'a qu'une solution, l'insurrection. Et effectivement, la Convention elle-même est issue d'une insurrection qui a renversé la monarchie le 10 août 1792. Et le député Ford, en écho tout à fait à ce qu'écrit également Condorcet dans sa présentation de son projet constitutionnel, le député Ford écrit: Je sens bien que pour réussir, il faudra le concours de tous les départements, mais que de correspondance, que d'agitation, que de moments perdus. Et donc, c'est aussi l'idée que les représentants, donc plutôt le peuple, pour s'opposer à ses représentants, devra se mobiliser de manière importante, y compris par des procédés qui ne sont pas des procédés insurrectionnels que précisément on souhaite éviter. Donc l'idée omniprésente est celle que pour éviter l'insurrection, et c'est la raison qui est couramment mentionnée, il faut donner au peuple une modalité légale, une modalité institutionnelle de s'opposer à la loi telle qu'elle est votée par les représentants. Deuxième ensemble de dispositifs qui sont envisagés, c'est ceux qui concernent le contrôle des représentants et des mandataires. Donc contrôle des représentants et des mandataires. Alors pas au sens où on supprimerait les immunités juridictionnelles des représentants, et notamment des députés. Les projets conservent l'irresponsabilité et l'inviolabilité, avec des nuances sur lesquelles on pourra revenir, mais ils s'accordent tous, grosso modo, sur ce cadre, qui est que les représentants doivent être libres de pouvoir exprimer au sein du corps législatif leur opinion. Et donc l'inviolabilité et l'irresponsabilité sont des moyens de garantir cette liberté. Mais tout en conservant ces dispositions qui avaient été élaborées dès les débuts de la Révolution française, proclamées au tout début de l'Assemblée constituante, ils adjoignent à ces différentes protections des contrôles politiques. Le député Lambert écrit: Tous les citoyens ont le droit de provoquer la mise en jugement des fonctionnaires publics en cas d'abus et de violation de la loi. Donc l'idée de pouvoir accuser, dénoncer les représentants. Pour ceci, plusieurs modalités sont prévues selon les projets. D'abord, la procédure électorale elle-même est utilisée pour distinguer les représentants vertueux de ceux qui ne sont pas vertueux. Et c'est, on peut citer l'exemple du projet de Donoux qui proposait d'avoir deux urnes au moment des élections, une urne blanche pour choisir et une urne noire pour disqualifier. Et la personne qui aurait atteint un certain seuil dans l'urne noire, quand bien même elle serait élue, serait automatiquement disqualifiée. Donc dans l'idée de dire que ce n'est pas parce qu'une personne arrive en tête dans les élections que forcément elle est apte à représenter si jamais une forte minorité s'oppose à sa désignation comme représentant. Et il qualifie cette procédure d'ostracisme le plus tempéré afin d'assurer à la majorité la plus infaillible un moyen d'écarter les sujets malveillants ou suspects. Donc la procédure électorale qui est utilisée de cette manière. Procédure mieux connue, plus classique, qui est celle de la possibilité de révoquer les représentants. Donc la révocation des représentants est aussi proposée, ou de rappeler les représentants dans le vocabulaire de l'époque, est proposée dans un très grand nombre de projets constitutionnels. Et l'insistance est mise sur l'absolue nécessité de doter le peuple de la possibilité de révoquer ses représentants. Le Girondin Blaviel, donc un Girondin, qui écrit de façon tout à fait typique que, je le cite, toute autorité confiée à un individu ou à un corps quelconque n'est qu'une délégation de la part du peuple, il a le droit de la retirer à sa volonté. Donc la délégation implique la possibilité de retirer la confiance qui est confiée, qui est déléguée au mandataire. Le député Lambert écrit que c'est là le seul moyen de corriger les vices inséparables du gouvernement représentatif. Donc on est conscient des limites du gouvernement représentatif versus, ou plutôt quand on a proclamé la souveraineté du peuple. Une fois qu'on a dit le peuple est souverain, si dans le même temps on dit on instaure des institutions purement représentatives, il y a un manque, et ce manque est corrigé, peut-être corrigé, par la faculté de révoquer ses représentants. Et ce n'est pas une révocation au sens où on l'entendrait aujourd'hui, c'est-à-dire une révocation pour faute, en quelque sorte, où il faudrait démontrer une lacune, une carence, etc., ou une révocation dont la liste des cas de déclenchement serait fixée par la loi. C'est une révocation pour perte de confiance. Donc c'est une révocation de type responsabilité politique, en fait, qui est envisagée. Troisième modalité, la capacité à faire rendre des comptes. Capacité à faire rendre des comptes, pour ne pas être trop long, j'indiquerai uniquement la proposition qui est faite au nom du comité de salut public dans la dernière phase de l'élaboration de la Constitution de l'an 1, par Hérault de Séchelles le 24 juin 1793, quand il dit, donc à la tribune de la Convention, notre intention a été de donner à la section du peuple qui a élu un député le soin de juger sa conduite. Et nous avons ajouté qu'un député n'était rééligible qu'après que sa conduite aurait été approuvée par ses commettants. Donc l'idée qu'avant de pouvoir se représenter à une élection, il faut d'abord avoir un vote de confiance de la part de son assemblée électorale. Donc là encore, c'est un moyen de provoquer le débat sur l'action du représentant sortant et d'interdire, le cas échéant, qu'il se représente s'il a perdu la confiance du peuple. Quatrième et dernier élément, les censeurs, l'institution des censeurs et la surveillance des mœurs, notamment des représentants. Donc le terme de censeur est présent dans au moins la moitié des projets constitutionnels, de même que le terme de vertu, puisque les censeurs ont pour vocation, dans les projets constitutionnels, de contrôler les gouvernants. Les censeurs, ce n'est pas contrôler les mœurs du peuple de manière générale, c'est contrôler précisément les gouvernants. Et le député Barayon, par exemple, écrit: Nous instituons des censeurs publics pour être l'œil et les vigies de la cité. L'action politique et morale des fonctionnaires publics est spécialement recommandée à leur examen, à leur attention. Donc l'idée qu'il faut instaurer des dispositifs ou des institutions de manière à surveiller ceux qui ont le pouvoir de manière privilégiée. Dernier point et dernière modalité que prévoient ces projets constitutionnels, donc après tout ce qui concerne l'élaboration de la loi, après ce qui concerne le contrôle des gouvernants, l'initiative populaire. Et donc cette initiative populaire doit se concilier, je ne reviendrai pas là-dessus puisque j'ai déjà un peu développé, avec l'idée que l'insurrection est parfois légitime. Donc comment le peuple peut-il prendre des initiatives? Est-ce que ça ne passe que par l'insurrection? Ou est-ce que ça peut passer également par des procédures plus institutionnalisées? Il y a voilà, un arbitrage qui n'est pas fait toujours de la même manière au sein des projets constitutionnels, notamment parce que, je l'ai dit, la Convention elle-même est issue d'une insurrection, qu'il est difficile de disqualifier par principe l'insurrection dans les circonstances politiques de l'époque. Deuxième élément pour cette capacité d'initiative institutionnelle du peuple, le droit de pétition. Tous les projets proposent un droit de pétition même renforcé, qui implique, par exemple, pour Robespierre, dans la séance du 24 avril 1793, le droit de pétition implique le devoir pour les représentants de statuer au sujet des pétitions qu'ils reçoivent. Donc ce n'est pas seulement la boîte aux lettres dans laquelle on dépose la pétition, c'est qu'il y a des effets de droit qui sont déclenchés derrière, soit obligation de répondre au contenu de la pétition, soit même autorisation pour ceux qui ont signé la pétition de venir la présenter devant le corps législatif. Donc c'est un mécanisme de pétition avec des effets de nom. Et enfin, des capacités d'initiative populaire qui sont également proposées. Donc la plus connue est effectivement celle de Condorcet avec le même mécanisme de tache d'huile qui donc, est utilisé pour s'opposer à une loi qui peut être aussi utilisée dans le projet de Condorcet pour proposer des lois. Et dans cette perspective, bien sûr, la question qui se pose d'autant plus à l'époque, mais qui continue à se poser aujourd'hui, c'est comment assurer la communication et la collecte de l'ensemble des volontés qui peuvent être exprimées par les citoyens. Et donc, un certain nombre de projets proposent des institutions qui sont destinées à cette collecte des pétitions ou des doléances citoyennes et qui sont chargées de faire le lien entre les assemblées primaires, d'envoyer les projets qui sont adoptés à un endroit aux autres assemblées du département, de les transmettre aux bonnes assemblées, aux corps législatifs, etc., pour permettre l'émergence de cette volonté générale. Et donc, en conclusion, quelques mots pour dire que il me semble que la question fondamentale des premiers projets qui visent à doter la France d'une constitution républicaine sont précisément sur la question qui fait l'objet du colloque d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on articule la représentation, un gouvernement représentatif qui est indépassable et des facultés pour les citoyens d'exercer certaines compétences institutionnelles. Et j'ai essayé de brosser très très rapidement et de manière du coup insatisfaisante les différentes pistes, les principales pistes qui sont abordées dans ces projets, mais qui, vous l'aurez compris, s'inscrivent toutes dans un paradigme institutionnel et politique commun qui vise à nouer ensemble démocratie et représentation. Merci.